Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale PIF jour 6. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de deux films aujourd'hui alors que j'avais dit un hier. J'ai vraiment speedé après ma projection presse et j'ai réussi à être à l'heure pour le premier film dont on va parler. Et donc on commence tout de suite avec Last Straw de Alan Scott Neill. Entre les petites frappes du coin à remettre à leur place, le cuistio sardonique et un serveur un peu trop collant, Nancy subit son job au diner de son père. Alors qu'elle assure seule un service de nuit, un groupe d'individus masqués s'en prend à l'établissement. Alors pour mettre un peu plus de contexte, je sais plus comment c'est formulé dans TMC ce que je vous ai lu, les petites frappes, voilà, entre guillemets. Bref, bon, globalement des rednecks, hein, si on prend le vocabulaire américain. Viennent la faire chier la journée avec les masques. Voilà, donc les masques à l'origine, bref, ils sont à ces jeunes-là. Toujours est-il que, ça va spoiler un petit peu, hein, je préviens quand même. Toujours est-il que y a un twist, hein, voilà, un twist qui, bon, sans le révéler, est globalement un petit peu prévisible, je trouve, voilà, qui, bon, bref, au milieu, il y a un twist qui fait qu'en fait, après, on va changer, il y a un truc qui va se faire sur la question du point de vue, et en soi... Je trouve pas le twist fondamentalement mauvais. Je vous ai dit, il est prévisible, mais il y a beaucoup de twists prévisibles où, en gros, après le twist, le film n'a vraiment zéro intérêt. Et je trouve que c'est absolument pas le cas pour Last Straw. Donc, c'est plutôt, plutôt bon et impressionnant, voilà, de la part de ce film-là, d'avoir réussi à faire ça. Ça marche bien après le twist, je trouve. C'est vrai que là, je sais pas si c'était vraiment utile tout ce truc de point de vue, voilà, changer de point de vue, etc. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il que ça fonctionne et qu'on est dans le film. Donc non, c'est pas du tout ça que j'irais critiquer d'un point de vue scénaristique. Hein. Ce que j'irais critiquer d'un point de vue scénaristique, c'est déjà en premier lieu l'écriture des personnages que je trouve assez assez caricatural, hein, dans cette Amérique des campagnes, Amérique profonde, etc. Bref, si on reste dans ce délire-là, c'est quelque chose qui est assez caricatural. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a ce personnage de la serveuse qui est pas caricatural, mais qui est sur les bords globalement. Je trouve que plus gros problèmes d'écriture et scénaristique viennent pas de Nancy, en tout cas. Je trouve qu'ils viennent plus du personnage qui joue Jake, je crois qu'il s'appelle, c'est le cuistot. Je trouve que Jake, c'est de là d'où viennent les plus gros soucis scénaristiques, clairement. Parce qu'il a une caractérisation qui fondamentalement est pas super intéressante, hein, voilà. C'est un personnage assez typique, hein, qu'on a déjà vu beaucoup de fois, va avoir, ouais, puis même une caractérisation, une motivation, enfin, il va faire ses actions, le gars, juste un petit truc, il vrille totalement, enfin bref, bon, en termes de caractérisation, c'est vraiment, vraiment pas fou. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sinon, hormis ça? Oui, c'est vrai que, y a toujours ce truc qui est un peu chiant, moi, à force qui m'agace un petit peu de voir dans les films de tout le temps placer un personnage féminin qui va être un love interest d'un autre personnage masculin. Franchement, j'avoue que ça m'agace un petit peu de voir ça. Donc là, ça va, contrairement à The Sacrifice Game, hein, c'est un personnage, mais c'est quand même là. Quand on vous dit qu'il est un peu collant, y a un truc à comprendre, hein, c'est que clairement, il veut la pécho, pour dire les termes crûment. Ce serait pas mal si, effectivement... par moment, ils arrivent à faire des films où il n'y a pas de love interest, surtout quand ce n'est pas nécessaire, comme dans ces situations-là, parce que dans ce film, je peux vous dire que c'est absolument pas nécessaire. Je comprends pas pourquoi c'est là. Enfin bref, voilà. Un des autres trucs, j'ai beaucoup de choses à dire sur le scénario, hein, mais un des autres trucs qui m'a un peu, voilà, c'est que c'est un film qui, on nous l'a dit en présentation, va un peu aussi s'inspirer d'Hitchcock, hein, qui du coup, dans son genre, dans son fond même, hein, va être hyper axé sur le thriller, le mystère, etc. Enfin, pas vraiment le mystère ici beaucoup plus le thriller, mais en fait je dis mystère dans le sens où c'est un film qui va vraiment arriver et mettre plein d'éléments scénaristiques. Je ne vais pas non plus tous les révéler ici parce que ce serait spoil, mais par exemple, un truc qu'on apprend dès la première scène, c'est que le personnage principal est enceinte. Bref, on apprend plein de trucs. Ensuite, c'est des petits détails tout cons, hein, des trucs de merde, hein, des plans sur un certain objet, ouais, une attention attirée sur un certain objet. Enfin, voilà, c'est ce genre de truc-là. Et en fait, le film va mettre énormément, énormément, énormément de trucs en place. Ouais, même ça peut être, j'y pense aussi, hein, mais le caractère d'un personnage, etc. Donc voilà, c'est un film qui va mettre énormément de trucs en place. En fait, on se dit, mais c'est impossible qu'il arrive à tout utiliser. Et pour le coup, j'ai pas retenu, mais je crois qu'il y a vraiment des trucs qui passent à la trappe. Et voilà, donc je comprends un peu l'intérêt, surtout pour un film à twist oui, au milieu en tout cas, pas à la fin, mais bref, pour un film à twist, de mettre plein d'éléments de ce type. Toujours est-il que c'était pas la peine de mettre autant de choses, voilà, parce qu'il y avait des choses qui servaient pas du tout au twist, et voilà, où il y avait des choses où franchement, c'était un petit peu inutile, et voilà quoi. On aurait pu se passer du fusil de Tchekhov. J'ai eu cette pensée dans le film, là, c'est même plus des fusils de Tchekhov à ce rythme-là, c'est des mitraillettes de Tchekhov tellement il y en a quoi. Enfin, ça veut peut-être rien dire, mais je me comprends quand je dis ça. Donc ouais, non, un film hyper hyper dense en termes de scénario, même peut-être un peu trop, je pense, parfois. Que dire d'autre. Écoutez, que la fin est entièrement ratée, ça je pense que c'est le point de scénario qui pêche le plus, hein, c'est la fin. Elle est infâme, hein, vraiment. Enfin, il y a tout un monologue qui, bon, franchement, a pas grand chose à faire là de la part du personnage principal. Même le dernier plan, le dernier dialogue, enfin bref, il a aucun, enfin ça n'a rien à faire là. Je pense que le film doit couper 5 minutes avant à peu près, je pense, peut-être un peu plus, je sais pas, mais le film doit couper un tout petit peu plus tôt. La fin est totalement ratée, mais bref, oui, c'est un peu symptomatique aussi du film, hein, c'est que à passer un certain moment, plus ça avance, plus ça fait que se dégrader. C'est bien dommage parce que, en fait, c'est un film qui a des qualités très très bonnes, hein, qui est très cool à regarder. Ce truc un peu, parce que bon, les diners, c'est aussi typique américain, et donc on sent que c'est quand même un film qui est typiquement américain, hein, dans son fond, etc., comme dans sa forme d'ailleurs. Ce truc un peu de problème dans les diners, on a pu le voir beaucoup. Et pour le coup, je trouve que ça apporte un truc pas mal, et que c'est vraiment pas mal foutu. C'est un plutôt bon film, hein, clairement. C'est dommage que justement y ait ce truc là qui pêche scénaristiquement, parce que justement, bah autrement, c'est un bon film, ça propose des belles choses avec une bonne mise en scène. Non, c'est vraiment dommage, voilà, que ça pêche d'un point de vue scénaristique. Après, quand je dis que ça pêche, hein, c'est que voilà, par exemple, quand je dis que ça met beaucoup d'éléments au début, c'est pas non plus un énorme défaut, c'est juste que ça aurait pu être évité et que c'est dommage. Mais voilà, il y a beaucoup plus grave en termes de scénario, et même dans ce film, hein, il y a beaucoup plus grave, entre guillemets. Mais donc oui, sympathique, mais qui souffre de quelques défauts scénaristiques qui, gâchent un peu le tout, quoi. Allez, on quitte donc les États-Unis pour rejoindre l'Espagne, puisqu'on va parler du film hors compétition The Coffee Table de Kaye Casas.
Les va apportar felicidad al hogar.
Es una mierda.
Maria et Jesús, jeunes parents et vieux couple, exacerbent leur tension conjugale autour de la question d'acheter ou non une table basse hors de prix. L'affaire est finalement tranchée, le meuble trône finalement dans le domicile, ne lui manque qu'une vis. Alors, franchement, je suis désolé, mais il y a un moment où je vais essayer de parler du film sans spoil, mais il y a un moment où je vais devoir spoil ce qui se passe, en fait, l'événement principal du film qui régit tout le reste, parce que je peux pas faire sans, je peux pas critiquer ce film sans parler de cet événement-là. Alors, lorsque l'équipe du festival nous a présenté le film, on nous a parlé d'une comédie noire, parce que j'étais très content, parce que moi, c'est vraiment ce que j'attendais depuis le début du pif, hein, vraiment une comédie noire, je trouve que c'est ce qui a manqué. Donc forcément, j'attendais ça, hein, tout simplement. Donc j'étais très heureux. Puis après, j'avoue que j'étais un peu plus intrigué quand le réalisateur a laissé un message vidéo qui a été diffusé avant le film, et que lui parlait parlait un petit peu de comédie noire, hein, un petit peu, mais il parlait aussi et surtout de, pour reprendre ces termes, d'une tragédie. Voilà, donc ça pose un petit peu problème, et on se dit, bah merde, est-ce que vraiment je vais voir ce que j'ai envie de voir, ce pourquoi je suis un peu venu voir le film. Bon, pas que ça, mais voilà. Et en fait, c'est un film qui, effectivement, se veut être une tragédie et une comédie noire, sauf que à mon sens, il est tellement perdu au milieu de ces deux trucs qu'il arrive à n'être vraiment aucun des deux. Alors, tragédie, si, parce que dans la nature des choses qui se passent dans le film, ça ne peut être qu'une tragédie, mais c'est extrêmement mal amené. Pour moi, il y a vraiment une erreur de ton dans ce film. Voilà, il y a une erreur, ouais, de ton, de fond, de forme, de tout, en fait. Parce que, pour commencer rapidement sur la forme, hein, c'est une mise en scène qui est j'ai pas envie de dire inexistante, mais un peu quand même. C'est-à-dire que les choses qui auraient été les plus intéressantes à voir, bah, c'est pas sort champ, hein, ce qui en soi est pas non plus. Et pas non plus un drame, hein. Il y a plein d'usages intéressants du hors-champ, mais là, à mon sens, ça n'aurait pas dû être ça, hein. Voilà, pour moi, ça n'avait pas lieu d'être, tout simplement. Donc, ouais, le hors-champ ici, voilà, j'ai pas vraiment aimé cet usage-là, parce que déjà qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si en plus les seuls trucs un peu, entre guillemets, worth it, j'ai pas le mot, enfin, qui valent le coup, quoi, on nous les met en hors-champ. Ça va pas le faire, voilà, parce qu'on s'attend quand même à un film un peu choquant, un peu casse-gueule, un peu gore, tout ça. Donc il faut qu'on l'ait, en fait, ce film, globalement. Et alors là, mais je pense que c'est ça va être très bref mais intense, hein, pour le coup, mais la photographie de ce film, sincèrement, je ne pensais pas voir un film qui a été inventé, qui a été tourné, pardon, avant que le métier de directeur de la photographie soit inventé, parce que je pense que c'est véritablement le cas sur ce film là je refuse de croire que ce film a eu un chef opérateur. Je ne comprends pas comment c'est possible. Enfin, je veux vraiment pas y croire. Pour moi, c'est impossible que ce film-là ait eu un directeur de la photo. C'est comment dire, c'est tellement bizarre. En fait, ça oscille entre tellement de photos différentes. Voilà, il n'y a pas du tout de cohérence esthétique. Et même comme ça, la photo est nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, non seulement du coup, il n'y a aucune cohérence esthétique, mais en plus, chacune de ces photos différentes va être absolument dégueulasse. Voilà. Et il y avait des moments où j'avais vraiment envie de me prendre la tête de désespoir parce qu'on ne voit littéralement rien. Parce que, vraiment, on ne voit pas les personnages. C'est quand même fou, quoi. Il y a des moments où on ne voit pas les personnages. Voilà, ils sont tellement... Il y a une gestion des ombres qui est tellement, mais désastreuse. Enfin, c'est désolant. C'est franchement désolant. Et ouais, non, pour le coup, on souffre très fort. On souffre très, très, très fort. Alors du coup, je préviens, là, on arrive au moment du podcast où je vais spoil l'événement majeur du film, hein, mais pour critiquer la suite, il faut que je le fasse, donc je suis désolé. Donc voilà, si vous n'avez pas envie d'être spoil, je vous laisse vous rendre à la fin du podcast directement. Ce qui se passe dans ce film, c'est que, on vous l'a dit, ce sont des jeunes parents qui ont donc un nouveau-né. Ils achètent cette table, on leur dit, mais vous inquiétez pas, elle est réputée. Enfin, en gros, ouais, le verre est absolument incassable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne casserez pas le verre. Le fait est qu'il manque cette vis, du coup la table n'est pas finie d'être montée par le père, la mère s'en va pour faire des courses, et là, justement, quand je disais que ça se passait en hors-champ, ça se passe en hors-champ, on entend le verre se casser, d'un coup le bébé a arrêté de pleurer, voilà, et donc on comprend que bon, bah globalement, avec tout le sang qu'il y a et le bon, moi j'ai pas compris, hein, voilà, c'est... Alexei, hein, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, hein, qui m'a dit le bébé était décapité. J'avais pas compris qu'il avait été décapité. Voilà, mais donc du coup, ouais, le verre a décapité le bébé. Donc c'est pour ça que je dis que par essence, en fait, évidemment que c'est une tragédie, parce que un père qui, sans faire exprès, décapite son bébé, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est horrible, mais ça l'est, en fait. Voilà, donc par essence, oui, c'est une tragédie. Maintenant, le film rate totalement, parce que en fait, l'aspect tragique ponctué d'humour noir, il est totalement raté. Pour vous expliquer un peu, donc Ressus ne va absolument pas dire logiquement à sa femme, hein, qu'il a tué leur fils, parce que voilà. Et en fait, du coup, elle, comme les autres personnages du film, n'arrête pas de faire des références à la situation. Je pense que vraiment, en écrivant le scénario, ils se sont dit, les gars, qu'est-ce qu'on peut mettre comme phrase en rapport avec la mort d'un bébé. Et je pense que tout y est passé. Vraiment, c'est le seul ressort comique du film, à part un truc, j'y reviendrai, mais c'est vraiment de dire « Ah ouais, un truc du style, tiens, c'est le karma qui a fait ça, ah ouais, ta table soi-disant incassable, là, franchement, j'aurais tué pour voir ta tête à ce moment-là. » Enfin bref, c'est que des jeux de mots et des trucs comme ça. Et je crois qu'il y en a un qui est marrant, mais sinon, franchement, le reste, bof. Voilà, et il n'y a que ça comme humour, si ce n'est le fait qu'il y a une voisine de 13 ans qui pense que Jesus est totalement amoureux d'elle et machin, et bref, elle est clairement dans ce délire-là. Bref, donc il y a ce truc-là. Mais sinon, c'est désastreux. C'est absolument désastreux en termes de ressort comique. Et même ça, c'est pas super drôle en soi. Hein. Franchement, je pense que le film aurait beaucoup plus gagné à faire une mise en scène beaucoup plus dramatique. À faire une mise en scène, déjà, ça aurait pu être pas mal dans un premier temps. Mais ouais, à faire une mise en scène beaucoup plus dramatique. Et en essayant pas de faire des blagues un peu nulles. Et si il voulait faire une comédie noire, fallait beaucoup plus l'accentuer, parce que là, force est de constater que ça ne suffit absolument pas. Ça ne suffit absolument pas. Et franchement, c'est dommage, parce que ce concept de tragédie qu'on accentue avec de la comédie noire, je pense que ça peut marcher, mais de fou. Et jamais le film n'arrive à vraiment le faire marcher. Et c'est franchement dommage, parce que c'est un film qui, je pense et je trouve, aurait pu être absolument super, comme beaucoup de films de ce festival d'ailleurs, hein, qui ont des concepts pas trop mal, mais qui en fait sont tellement mal exécutés. Et là, pour le coup, c'est tellement mal écrit et en même temps, mal mis en scène, et franchement le pire truc de ce film, je pense que c'est la photo, hein, voilà. Mais bref, c'est tellement mal exécuté que au final ça fait que c'est pas un bon film, et c'est fort dommage. Et je terminerai en disant que franchement ce film peut remercier à l'intérieur d'exister, parce que je pense que sans à l'intérieur je l'aurais mis pire film du festival, voilà. Et franchement je suis pas loin de le faire, mais c'est vrai qu'à l'intérieur j'ai pas du tout aimé, voilà. Mais des séances du soir elles ont l'air un petit peu compliquées au pif, et voilà, ce film on apporte la preuve supplémentaire, voilà. Et pour le coup c'était vraiment vraiment pas fou, malheureusement. Alors que ça avait un petit potentiel, quoi. Voilà. Allez, c'est la fin de cet épisode. Voilà, c'était l'avant-dernier jour du pif. Déjà, ça passe extrêmement vite. Demain, donc, je pense qu'on aura une journée à 3 films, je pense. Donc, je ferai le rattrapage de Xanox, puisque c'est le dernier film en compétition qui me manque. Après, j'aurai vu toute la compétition. Ensuite, je verrai le documentaire sur Dario Argento et la clôture. Pour la compétition, je vais vous donner mes envies de victoire. En vrai, il y en a beaucoup cette année, hein, ce qui est vraiment pas commun pour le pif. Hein. Bon, je l'ai fait qu'une fois, mais l'an dernier, il n'y avait vraiment pas autant de films. Mais mes envies de victoire ça je le dirai après. Mais donc on a en boucle, on a Late Night with the Devil et on a Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Consentant, avec en mention honorable Stop Motion, voilà. Mais c'est vraiment les trois que je veux voir gagner, hein, les autres. Si franchement un des trois ou je sais plus exactement combien il y a de prix, mais bref, en tout cas j'espère que ce sera primé, parce que c'est des super films, les trois que je vous ai cités. Et puis bon, si c'est Stop Motion, je serai pas non plus déçu, même si je préfère que ce soit les autres qui gagnent. Et donc je serai là pour vous débriefer tout ça. Donc je vous dis tout simplement à demain pour le débrief du dernier jour du pif.